Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
Bonjour à toutes et à tous, ici Anaïs Delomel au micro pour un nouvel épisode de notre série d'émissions Nos aînés connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans Nos aînés connectés, et comme vous avez déjà pu le découvrir à travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca, nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et nous voulons également, à travers ce projet, favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre, et ce, d'autant plus depuis la pandémie du Covid-19. Alors, dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, nous allons parler de la fraude reliée aux abonnements, notamment aux abonnements de magazines. Et oui, nous aimons tous feuilleter des magazines de temps en temps, ils nous font voyager dans d'autres pays ou encore nous font découvrir de nouvelles recettes et astuces. Mais parfois, il peut y avoir de la fraude. Est-ce que vous savez comment ? Écoutez cet épisode de Nos aînés connectés pour le savoir. Cette arnaque est également connue comme étant l'arnaque à l'abonnement caché. C'est une pratique frauduleuse courante sur Internet, visant souvent les personnes âgées qui ne sont pas familières avec les subtilités des transactions en ligne. Cette arnaque consiste à attirer les consommateurs par une offre alléchante, mais en dissimulant les conditions réelles de l'abonnement ou en rendant difficile l'annulation de celui-ci. Alors aujourd'hui, pour vous expliquer en détail de quoi il s'agit, je vous ai fait un petit exemple qui, je l'espère, vous éclairera. Prenons l'exemple de Marie, une femme âgée de 75 ans qui adore la lecture et qui a trouvé un site internet proposant un abonnement à un magazine en ligne à un prix attractif. Convaincue par l'offre, Marie a rempli le formulaire en ligne avec ses informations personnelles et a effectué le paiement avec sa carte de crédit. Cependant, ce que Marie n'a pas réalisé, c'est que le site internet avait dissimulé les termes de l'abonnement dans de petites clauses en bas de la page, ou les avait présentées de manière confuse. En conséquence, elle s'est retrouvée engagée dans un abonnement mensuel automatiquement renouvelé sans même en avoir conscience. Quelques semaines plus tard, Marie a été surprise de constater les prélèvements mensuels sur son compte bancaire, correspondant aux frais d'abonnement au magazine en ligne. Lorsqu'elle a tenté d'annuler son abonnement, elle s'est heurtée à des procédures complexes et à un service à la clientèle difficile à contacter. Malheureusement, Marie s'est rendue compte trop tard qu'elle était tombée dans le piège d'une arnaque à l'abonnement caché. Elle a perdu une somme importante d'argent et a été confrontée à des tracas administratifs pour mettre fin à cet abonnement non désiré. Pour éviter de telles situations, il est essentiel d'être vigilant lors de toute transaction en ligne. Il est recommandé de lire attentivement les termes et conditions avant de s'engager dans un abonnement, de vérifier les politiques d'annulation et de renouvellement automatique et de surveiller régulièrement ses relevés bancaires pour détecter toute activité suspecte. De plus, en cas de doute, il est préférable de s'abstenir et de rechercher des alternatives plus transparentes et fiables. Selon une étude récente menée par l'Association canadienne des paiements, les fraudes liées aux abonnements cachés représentent une part significative des escroqueries en ligne, avec une augmentation alarmante de 45% au cours de l'année écoulée. Parmi les victimes de ces fraudes, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables, représentant près de 30% de ces cas signalés. En analysant les données fournies par le Centre antifraude du Canada, on constate que plus de 60% des victimes d'arnaques à l'abonnement caché ont été induites en erreur par des pratiques commerciales trompeuses sur Internet. Ces pratiques comprennent notamment la dissimulation des termes et conditions dans de petits caractères ou à la fin d'une longue page, ainsi que l'utilisation de tactiques de vente agressives pour inciter les consommateurs à s'abonner rapidement. Dans de nombreux cas, les victimes ne réalisent pas qu'elles se sont abonnées à un service récurrent jusqu'à ce qu'elles découvrent des frais non autorisés sur leur relevé bancaire. Malheureusement, une fois engagées dans ces abonnements, elles se retrouvent souvent confrontées à des difficultés pour annuler les paiements récurrents et récupérer leur argent. Pour lutter contre ce fléau, les autorités et les organisations de protection des consommateurs appellent à une réglementation plus stricte des pratiques commerciales en ligne, ainsi qu'à une sensibilisation accrue du public au risque d'arnaque à l'abonnement caché. Des campagnes d'information sont menées pour informer les consommateurs des signes avant-coureurs de ces fraudes et des mesures à prendre pour se protéger. En conclusion, l'arnaque à l'abonnement caché est un problème croissant dans le paysage de la cybercriminalité, touchant un nombre croissant de personnes, en particulier les personnes âgées. Pour lutter efficacement contre cette menace, il est essentiel de renforcer la réglementation, d'accroître la sensibilisation du public et d'encourager une culture de vigilance et de prudence lors des transactions en ligne. Bon, allez, assez parlé Anaïs. Maintenant, laissons place à notre cher Christian Bode qui va témoigner de son expérience avec ce type de fraude. Je tiens à préciser que pour finir cet épisode, vous aurez également quelques conseils de la rédaction de Choc FM 105.1 qui vous permettront d'avoir un récapitulatif de toutes ces arnaques auxquelles vous pouvez être confronté lorsqu'il s'agit des arnaques liées à des abonnements de magazines, par exemple. Alors, bon épisode à tous et j'espère que ce dernier va vous offrir l'occasion de vous sentir plus rassuré face à ces situations parfois compliqué à gérer lorsque nous ne sommes pas suffisamment informés. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous vous informons. Alors, les auditeurs de Choc FM 105.1, je suis convaincue que vous deviendrez experts et expertes de fraude en ligne. Bonne écoute.
Nos innés connectés, témoignages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie Salmeron dans un nouvel épisode de Nos aînés connectés. Avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Christian Bode. Christian, comment ça va aujourd'hui ?
Ça va très bien, c'est une journée ensoleillée, on n'a pas eu tellement cet hiver, alors profitons-en.
Exactement, et puis surtout profitons-en pour parler et rappeler justement un petit peu les fraudes auxquelles nos aînés font face un petit peu plus chaque jour, malheureusement, puisqu'on ne va pas se mentir. La piraterie et les fraudeurs sur Internet sont de plus en plus présents et de plus en plus présents avec des techniques de plus en plus sophistiquées. Aujourd'hui, Christian, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Toi, tu as voulu prendre un abonnement ou un magazine en ligne. Explique-nous un petit peu en détail ce qui s'est passé pour toi, mon cher.
Alors, avec ma famille, au mois d'août, nous allons en Corse.
En France, ouais.
Ah oui, alors nous allons passer 2 semaines en Corse. Une semaine côté est, une semaine côté ouest. Et puis, comme je ne suis jamais allé en Corse, je voulais voir, me préparer.
Préparer un peu ton voyage.
Exactement. Mais quand j'étais jeune, je voulais faire le fameux sentier de grande randonnée, le GR20. Et maintenant, je pense que j'ai passé la capacité physique pour le faire.
Tu vas faire le GR2.
Alors, je vais voir sur un site internet, parce que je me souviens que le magazine Géo est très bien fait, et je dis, bon, c'est français, tout ça, alors il y a peut-être des choses sur la Corse.
Ils ont peut-être une édition spéciale sur la Corse, et ça pourra préparer ton voyage en lisant de la presse bien française.
Effectivement, il y a un numéro sur la Corse. Je paye donc l'achat pour avoir accès à ce numéro. Et alors là, il faut donner son courrier électronique, il y a un identifiant, il y a un nom et tout ça. Et j'essaie de me brancher, tout ça, et ça ne fonctionne pas. Alors, j'envoie un message à Géo et dans lequel je suis un usager et un client irrité et je n'arrive pas à avoir accès au
bon magazine que tu viens d'acheter.
Que j'ai payé.
Et même, qui a bien été débité sur ton compte.
$15, oui, $15, tout ça. Alors, il y a quelques journées qui se passent, il y a une semaine, et je reçois, il n'y a pas longtemps, un avis qu'on va me rembourser un certain montant. Et les numéros du bon de commande de Géo et le numéro d'avis d'un remboursement sont un peu comparables.
Mais ce n'est pas tout à fait pareil.
Un était 6836 et l'autre était 0706. Alors, je dis, est-ce qu'il y a un petit peu un numéro? Est-ce qu'il y a une différence de...
Puis comme on ne sait jamais, des fois, d'un service à l'autre, ils ne prennent pas en compte les mêmes numéros. Toi, tu ne sais pas, au final. Toi, en exactement. Soi, mis à part vouloir ton petit magazine, tu n'as rien à voir là-dedans.
Alors, spontanément... Quel que soit le texto ou le courrier électronique qui m'offre un remboursement, j'évite de cliquer et d'ouvrir la pièce jointe.
Donc si jamais un jour vous croisez Christian dans la rue, ne lui offrez jamais d'argent, il refusera.
Alors j'attends et puis j'aimerais quand même voir si j'ai été remboursé à mon compte bancaire, rien. Je vais sur mon compte bancaire, sur ma tout ça, et rien ne s'est passé. Alors il dit non, je ne vais pas cliquer sur cette pièce jointe. Et là, je regarde plus attentivement le message. Et puis c'est pas Géo qui m'envoie ça, c'est Geek Squad, donc une entreprise de services électroniques qui aide les gens qui ont des problèmes avec leur ordinateur, leur télé, c'est ça, et qui me dit voilà. Vous avez un remboursement de 400 quelque chose dollars, cliquez ici. Alors non, fini.
Puis même, c'est un peu bizarre de recevoir un montant aussi gros pour un magazine qui coûte 15 dollars.
Exactement. Alors, si je n'avais pas été... je n'avais pas fait attention, je n'avais pas été alerte, j'aurais dit, c'est des numéros comparables. Automatiquement, spontanément, cliquons. Mécaniquement, j'aurais pu cliquer dessus. Il faut donc maintenant vérifier même les numéros de bons de commande et de bons de
paiement. Oui, tous les numéros qui sont dans les communications. Oui. Mais du coup, là où tu commences à avoir un peu la puce à l'oreille, c'est que tu achètes un magazine francophone, français pour l'occurrence.
Et je reçois un message en anglais.
Voilà, et on va pas se le mentir, en France, s'il y a bien un truc qu'on n'est pas top, c'est l'anglais. Et crois-moi que quand tu écris au service de presse de n'importe quel magazine, on te répondra en français. Oui. Mais du coup, toi, quand tu passes ta commande, tu es bien sur le site du magazine Géo.
Je suis bien
tout sûr. Est carré, je veux dire, il n'y a pas... je suis allé sur le site de la librairie bizarre du fin fond de je sais pas d'où pour passer commande.
Non, absolument pas. Je suis sur le site de magazine Géo. Et puis, du distributeur.
Oui, de l'éditeur.
De la messagerie, oui, qui s'appelle Prime Shop ou Prime Shop, on dirait en français. Mais moi, je suis quand même, je ne suis pas complètement paranoïaque avec le système électronique. Je suis un acheteur régulier de livres, de films, de commandes.
Oui, je veux dire, tu es quand même un habitué.
Je suis un habitué.
Des achats en ligne.
Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est affreux de faire affaire avec Amazon, mais...
si c'est pratique pour vous, faites-le.
C'est pratique pour moi. Je commande des livres d'une librairie de Montréal, je les reçois. Je commande des livres de Hub Books en France et j'ai reçu des livres 3 semaines plus tard. Sans savoir si j'allais les avoir avant Noël, des romans policiers de Léo Mallet, un ancien, parce que à l'époque j'aimais beaucoup la série de Nestor Burma avec le feu Guy Marchand, et je me suis aperçu que, enfin, quand il est décédé il y a quelques semaines, que beaucoup de ces épisodes venaient de Léo Mallet, donc j'ai commandé des livres. Mais j'ai attendu 4 semaines. Les livres sont arrivés au bout de 4 semaines. Donc, je fais confiance.
Tu fais confiance, oui. Tu as l'habitude aussi d'avoir des bonnes expériences. Donc, forcément, quand on a des bonnes expériences, on a toujours la puce à l'oreille parce que toi, tu es alerte. Mais tu vas moins te dire, forcément, il y a fraude.
J'ai reçu souvent de l'excellent service en faisant affaire avec... avec des affaires commerciales avec, sur Internet. Je n'ai pas à me plaindre, mais c'est quand, tout à coup, on m'offre des remboursements ou on me demande de cliquer ici ou on me demande de visiter un site que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Alors là, ça, j'y fais extrêmement attention.
Mais est-ce que tu penses que quand tu as écrit à la fameuse adresse XY en disant, voilà, j'ai un souci avec mon magazine et tout, est-ce que tu penses qu'elle est là, la fraude qui démarre? Est-ce que c'était peut-être une adresse corrompue? Ou alors, au final, c'est un petit peu le timing qui a fait que tu crois que ça a à voir avec ça et qu'au final, ça n'avait rien à voir?
Je pense que c'est le timing parce que j'ai reçu une réponse très développé de ce que je devais faire. Et même si j'ai essayé, ça n'a toujours pas fonctionné, donc il faut que je continue. Mais cette personne m'a répondu de façon très élégante et très précise et très raffinée et très polie. C'était un bon service à la clientèle. Seulement, il y a quelque chose qui, dans la séquence des actions que je dois faire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, j'aurai mon magazine, tôt ou tard, mais...
Tu seras prêt pour la Corse.
Mais je serai prêt pour la Corse, mais je ne sais pas quand, mais je vais quand même essayer. Alors, le problème, là, c'était que les numéros de commande et les numéros de supposé remboursement étaient...
Étaient
un peu similaires. Et si je n'avais pas fait attention, je pense qu'instinctivement, j'aurais cliqué là-dessus.
Mais tu disais que ce magazine, quand tu l'as acheté, le paiement, il a été fait tranquillement, pas de problème. Est-ce que quand tu as regardé ton relevé bancaire, la structure, ou en tout cas la ligne correspondante à ce retrait, c'était bien le site Prime,
Importe. Je ne sais pas, mais en fait, j'ai vu
la transaction.
Le propriétaire, tout ça.
Mais là, ce n'était pas quelque chose de bizarre.
Non, absolument pas. C'est pas un grand montant. Je pense que c'était, au total, c'était 19 $. C'était donc 15 € ou quelque chose comme ça, 14 €. Alors...
Et est-ce que le lien, quand tu reçois l'email en disant « Oui, on va vous rembourser X montant », est-ce que c'était le même nom que ce qu'on t'a prélevé? Parce qu'admettons, on te prélève avec A et au final, on te dit on va te rembourser avec B, c'est un peu bizarre. Mais est-ce que là, il y avait quand même un lien là-dedans? Parce que ça se trouve, en fait, sans le savoir, t'as certes eu un souci avec ton magazine, mais l'email que t'as reçu, t'aurais peut-être pu le recevoir quand bien même t'avais pas commandé ce magazine, tu vois?
Non, je pense que c'était...
Il parle du magazine dans l'email?
Oui.
Ah oui, donc c'est quand même ciblé, je veux dire. C'est pas... Oui. On va vous rembourser le sapin, alors qu'au final, toi, tu parlais d'un magazine, par exemple.
Alors, non, c'était dans le courrier que j'ai reçu de la compagnie de Géo,
ouais.
Il y avait identifié. Mais dans le courriel ou dans le texto qui me demandait, qui me disait « cliquez ici parce que vous recevez un remboursement », il n'y avait pas de référence au magazine.
Voilà. Donc, peut-être qu'au final, c'était le timing qui a fait que toi, tu avais un problème avec ce magazine que tu as acheté. Donc, en soi, admettons, je ne sais pas, tu as acheté Géo, tu parles avec Monsieur Géo. Et en même temps, tu as reçu au même moment un email disant « Ah bah oui, vous avez eu un souci, et bah nous, on vous rembourse ça. » Et là, ce n'est pas Monsieur Géo, là, c'est Monsieur Arnaque.
Et effectivement, et une ressemblance entre les numéros, entre le numéro de commande et le numéro de remboursement. Alors là, je pense que c'est ce qui m'a le plus
alerté,
impressionné, c'est que j'ai failli mécaniquement appuyer parce que je me disais « Ah oui, c'est vrai, c'est le même numéro que j'ai reçu pour le bon de commande il y a...
» X temps, ouais.
Voilà.
Qu'est-ce que tu donnerais justement, Christian, comme conseil aux gens qui... Voilà, vous commandez un truc sur Internet, il y a un petit souci dans la commande, vous n'arrivez pas à arriver au bout comme il faut. Bref, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'assistance. Vous recevez un email un peu bizarre, vous faites le lien, vous pensez que c'est avec ça. Bref, vous allez peut-être tomber dans le panneau. Comment tu pourrais donner des conseils aux gens pour qu'ils évitent de justement tomber dans ce fameux panneau?
Moi, personnellement, j'ai vérifié avec le site Internet de ce magazine, Géo. Ça existe, c'est un distributeur, une messagerie, tout ça. La personne qui m'a répondu a un numéro de téléphone. C'était quelque chose de très professionnel. Alors, ça met en confiance. Ce qui est très bizarre et qui doit alerter les gens, c'est comme les messages sont extrêmement succincts. Ça fait peut-être 3 lignes. Ce sont des textos. Ce sont des et ça ne vous répond pas à votre adresse électronique, mais ça va à votre numéro de téléphone, absolument de façon plutôt anonyme. Tandis que là, c'est une personne qui donne son nom, son numéro de téléphone une indication, une marche à suivre pour vous aider, pour accéder à votre magazine.
Oui, pour vous dépatouiller du problème dans lequel vous êtes à la base.
Exactement.
Est-ce que du coup, de voir un numéro de téléphone, pour toi, c'est rassurant ou tu as la parano qui est plus poussée que ça? Parce que moi, je sais que, par exemple, personnellement, je suis très parano comme personne et je me dis, ça se trouve, le numéro de téléphone, c'est un faux aussi. Et la personne que je vais avoir au téléphone, au final, c'est juste un complice de tout ça qui attend qu'il y en ait un qui compose le numéro. Est-ce que tu es pire que moi ou c'est moi la pire dans les situations d'un point de vue parano?
Je pense que je ne suis pas. Non, pour le numéro de téléphone, c'est pas si mal parce que je reçois souvent, parfois, des numéros de téléphone WhatsApp.
Mm-hmm.
Christian, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et même de jolies jeunes femmes.
Eh bien oui. Pourquoi se priver?
Oui, et c'est pas de ma faute. je suis
un aimant.
Je suis ciblé. Bon, on peut dire ça y est flatteur, tu te sens flatté. Non, mais c'est pas.
Non, mais il y a des gens, n'empêche que blague à part, ils peuvent se sentir flattés,
oui.
Justement. Ils peuvent se sentir un peu seuls et que par hasard, il y a une personne qui tombe du ciel.
Voilà.
Elle s'est trompée de numéro, mais regarde comment la vie elle est faite. Au final, elle tombe sur moi. On va faire une belle histoire d'amour.
Ouais,
pourquoi
exactement.
Pas
Alors, je dois dire que j'ai une méthode pour quand même un peu vérifier. Je ne téléphone pas à ces personnes-là, mais je regarde où elles habitent par le code régional.
Ah, c'est une bonne technique.
Alors, ça vient de New York, ça vient de Sacramento en Californie, ça vient de Seattle. Qu'est-ce qu'une jolie femme de Seattle va faire avec un retraité
de Toronto?
De Toronto, ouais. alors, je l'élimine.
Mais là, par exemple, dans cette histoire de magazine, quand tu reçois un email avec un numéro de téléphone, est-ce que là aussi, tu as tendance à regarder un petit peu, te renseigner le numéro? Est-ce que tu vas sur Google et tu le mets, ce numéro, pour voir si ça ressort?
Non, je suis retourné sur le site internet du magazine. Et j'ai essayé de suivre le protocole, mais là j'ai un problème parce que mon identifiant, chaque fois que je le mets, c'est mon nom qui apparaît et mon nom ne correspond pas au courrier électronique. Alors il faut que je vais obtenir mon magazine, mais je ne sais pas quand.
C'est quand le voyage pour la Corse?
C'est au mois d'août.
Bon, c'est bon, il y a encore un petit peu de temps.
Il y a encore un petit moment. Mais peut-être que je passerai par Paris, parce que cette messagerie de magazine est située à Paris.
Située à Paris, donc tu
veux peut-être
passer
que...
pour dire « c'est comment mon magazine ?»
C'est moi, c'est Christian Bott de Toronto. Avez-vous une copie de
mon magazine
que j'ai payé au mois de janvier?
Alors, si jamais tu devais donner un dernier conseil avant qu'on se quitte aux auditeurs de Choc FM, si jamais ils font des achats, qu'ils ont un souci... qu'ils ont besoin de parler entre guillemets avec le service après-vente, parce que c'est au final la vente a déjà été passée, ce serait quoi le conseil ultime?
Quand ça vient de forme professionnelle, de forme avec un identifié, de forme avec un numéro de téléphone, un site internet, un protocole...
précis à suivre.
Alors, je pense que là, il y a très peu... Pour 19$,
c'est vrai que...
je pense que je peux leur faire confiance.
Écoute, merci beaucoup, Christian, d'avoir partagé ton histoire avec nous. C'était donc Nathalie Salmeron dans Nos Aînés Connectés.
Nos Aînés Connectés, le point de vue de l'expert.
Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin dans l'émission Nos aînés connectés avec aujourd'hui une invitée spéciale sur le thème des personnes âgées face aux fraudes en ligne au Canada et un volet porté sur la prévention. On va voir avec mon invitée comment éviter les pièges, éviter de s'exposer peut-être en amont avant que les fraudes n'arrivent, comment se protéger et comment protéger aussi ses proches. Mon invitée invitée, c'est la fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, techno-éthique en français, Caroline Isotier. Bonjour Caroline.
Bonjour Guillaume.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Et toi?
Ça va très bien, c'est un grand plaisir de te retrouver. On rappelle que tu as également une émission derrière nos écrans sur les ondes de Choc FM 105.1 qui fait le point sur les questions qui t'intéressent en particulier avec Tech for Good Canada, mais tu vas les expliquer mieux que moi. Tu es une activiste en quelque sorte dans la bonne utilisation du numérique et aujourd'hui, je crois que tu t'intéresses également à une bonne utilisation en termes de développement durable, sustainability, comme on dit en anglais.
Oui, tout à fait. Tech for Good Canada est une OBNL, une organisation à but non lucratif, qui a été créée il y a quelques années pour éduquer et pour promouvoir ce que j'appelle le numérique durable. Et par durable, j'entends le côté dural d'un point de vue social, sociétal, donc bon pour nous, pour nos démocraties et pour notre santé mentale, et durable pour l'environnement, donc nos écosystèmes. Et c'est vrai que autant il y a 4 ans, quand Tech for Good Canada a été créé, je me focalisais beaucoup sur les aspects addiction numérique, ouais, et également protection de la vie privée en ligne. Autant récemment, j'ai découvert 2 ateliers qui viennent de France et qui sont vraiment très intéressants, que j'ai commencé à proposer ici au Canada anglophone, à Toronto notamment, et qui s'appellent la fresque du climat et la fresque du numérique. Ces deux ateliers complémentaires, en effet, s'intéressent à l'impact environnemental. La fresque du climat, il parle du changement climatique en général, mais c'est le préalable pour ensuite parler de l'impact qu'a le numérique sur notre environnement. Parce que même si on le présente comme étant très virtuel, hein, on nous parle de cloud, de nuages, des choses comme ça. Derrière l'industrie numérique, il y a vraiment beaucoup d'industries. Il y a de la fabrication, il y a de l'électricité pour les data centers, il y a de l'eau pour refroidir les data centers. Donc, ça n'a absolument rien de virtuel. Et au moment où on pousse cette industrie comme étant le Graal et en partie ce qui va nous sauver du changement climatique, il est important de sensibiliser à comment développer un numérique durable, donc qui ne va pas répéter les erreurs du passé et extraire, par exemple, des métaux rares du sol pour soutenir son développement effréné. Voilà.
Ah oui, des thématiques qu'on entend encore trop rarement développées dans les médias, en effet, et il y a bien un pendant très concret au numérique et un pendant sur notre planète, sur notre environnement qu'il faut avoir en tête, même si beaucoup présentent le numérique comme effectivement une solution à tous les maux, ça ne va pas parfois sans aussi des problèmes. Mais aujourd'hui, on est là davantage pour parler de cette thématique des fraudes en ligne et des fraudes d'une manière générale financière en particulier, pour les personnes aînées au Canada, qui sont malheureusement bien souvent cibles privilégiées des fraudeurs. Qu'est-ce que t'évoques cette thématique en deux mots par rapport à ton expertise justement du numérique et ta connaissance des bonnes manières, des bonnes méthodes pour bien utiliser le numérique ?
Alors, c'est en effet un sujet très pertinent. On parle aussi d'inclusivité et d'accessibilité du numérique. En fait, ça rejoint cette thématique-là. Moi, c'est vrai qu'avec Tech for Good Canada, je me suis beaucoup intéressée à une autre partie de la population qui est moins bien armée contre le numérique, contrairement, encore une fois, à ce qu'on peut croire que nous, ce sont les plus jeunes, les enfants et les adolescents. Parce que ils sont, comment dire, tellement happés par le numérique qu'ils n'ont pas la distance que nous on a adultes pour limiter leur consommation et pour éviter les arnaques aussi, parce qu'ils sont victimes d'arnaques régulièrement. Les aînés, c'est un sujet que je suis, mais un peu moins de près que tout ce qui est jeune, mais évidemment, il y a des bonnes pratiques que je connais et dont on peut parler concernant les aînés sur le numérique. Et notamment, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de prévenir plutôt que guérir. Et donc, le terme que j'utilise, c'est d'éduquer un maximum de personnes à avoir une hygiène numérique, tout comme on a une hygiène physique. On n'a pas eu le temps.
On revient vers les questions d'addiction. On peut penser effectivement au numérique. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui sont un petit peu plus connus, mais une hygiène du numérique, ça passe aussi par une bonne utilisation et une bonne connaissance des limites et des fraudes qui peuvent exister.
Justement. Des limites et des fraudes, et aussi tout simplement une compréhension du besoin de se protéger en ligne. C'est-à-dire qu'on nous encourage tous les espaces numériques, notamment les médias sociaux, hein, les Instagram, les Facebook, pour les plus âgés, nous encourage à nous exposer, puisque plus on s'expose, plus ça fait du clic. En fait, on remarque que entre une photo, je sais pas moi, de tout ce qui peut être nature et une photo de nous, d'une personne, le taux de réaction va être très supérieur si c'est une personne qui est mise en photo. Et donc, ces médias sociaux qui vivent du temps qu'on passe sur leur support, et puisqu'ils vendent de la pub pendant qu'on passe du temps sur ces supports, nous encouragent à nous dévoiler. Et également, ces médias sociaux revendent nos données, les recyclent, on pourrait dire, sauf que les recyclent en se faisant payer. Et donc, plus on lâche de données sans s'en rendre compte, hein, tout simplement en interagissant, plus ils gagnent de l'argent. Et donc, une partie de l'hygiène numérique, c'est tout comme on évite de diffuser son numéro de téléphone ou ses photos personnelles dans la rue, eh bien, c'est de faire pareil en ligne, en fait. C'est d'éviter de diffuser des images personnelles, soit de soi, mais surtout, si on revient aux aînés de ses enfants et de ses petits-enfants, sur les médias sociaux, même si on est très fiers d'eux, parce que malheureusement, ce qui est sur Internet n'est pas protégé aujourd'hui. Même si on est en mode privé, même si on sait comment protéger notre profil sur Facebook, ce que peu de gens savent, mais disons que la personne sait être en mode privé, ces données ne sont pas sûres, que ce soit un hacker ou que ce soit la société elle-même, les images peuvent fuiter. Et aujourd'hui, avec l'IA, si on rentre dans un usage bien concret d'arnaque qui peut être fait de ces photos qu'on a, sans s'en rendre compte, diffusées de nous-mêmes ou de notre famille sur Internet, eh bien, avec l'IA générative aujourd'hui, hein, le chat GPT...
L'intelligence artificielle, là, pour nos auditeurs...
Ce qu'il faut juste préciser, c'est que l'IA ou intelligence artificielle se développe depuis plus de 10 ans sans aucun souci. Ce qui a été révolutionnaire, c'est ChatGPT qui a donné au grand public... Oui. Une IA générative qui permet de créer des textes à la volée, et surtout son petit frère ou son petit cousin, dont le nom m'échappe à l'instant, mais c'est une IA générative qui permet de créer des visuels.
Ouais, le Midjourney, je crois que c'est ça.
Voilà, Midjourney. Tu rentres dans Midjourney, fais-moi une image... d'une personne de tel âge en train de voilà comme c'est l'automne, en train de ramasser des feuilles dans son jardin, et bien Midjourney est de tel type de personne, tel cadre, tel pays. Midjourney va faire de son mieux, plus ou moins bien, mais va te générer une image. Donc voilà, la bonne hygiène en ligne, c'est la même que hors ligne, c'est ne pas diffuser vos informations personnelles, aussi difficile que ça puisse sembler. Et si tu veux, par rapport à simplement parler de se prémunir contre les arnaques, on pourrait parler de comment on peut diffuser des informations personnelles de façon sécurisée, mais en tout cas, la façon non sécurisée, c'est via Instagram, Facebook, même, je t'avoue que WhatsApp est très utilisé. notamment par les groupes familiaux pour échanger des images entre eux. Et c'est très apprécié, hein. C'est une façon de rester en contact avec les proches à distance, surtout pour les gens qui nous écoutent. Ils ont sans doute une partie de leur famille à l'autre bout du monde. Mais WhatsApp appartient au groupe Meta, Facebook. Et les pratiques en matière de vie privée de Meta ne m'incitent pas du tout à faire confiance à Meta. C'est-à-dire que je ne peux pas garantir que Meta n'utilise pas ces images, même si Meta indique qu'il vous dit toujours sur WhatsApp, votre communication est encryptée de bout en bout. Alors ça, c'est super impressionnant. Ah, c'est encrypté, aucun hacker ne peut rentrer. Certes, alors aucun hacker extérieur, c'est possible, ne peut rentrer, on l'espère, hein, bien que rien n'est pas hackable sur Internet, ça, il faut le savoir, tout est hackable. Mais bon, disons que ce soit pas quelqu'un de l'extérieur, mais le pire, c'est que le loup est dans la bergerie, c'est-à-dire que c'est Meta eux-mêmes qui sont dangereux.
Alors, j'aimerais bien qu'on développe un petit peu ces questions qui sont brûlantes d'actualité. Je sais qu'en Europe, des lois ont été mises en place pour limiter, justement, pour empêcher certains grands médias sociaux de capter et de revendre des données personnelles, ce qui est contraire désormais à la loi européenne. C'est pas encore le cas ici, de ce côté-là de l'Atlantique, au Canada en particulier. On voit fleurir sur les réseaux sociaux des messages de gens qui prétendent, plutôt qui affichent le fait de ne pas vouloir partager leurs données personnelles avec Meta et de ne pas donner leur autorisation, leur consentement. Je crois, tu me diras si je ne m'abuse, que ce type de publication est absolument sans fondement juridique, ne sert absolument à rien, parce qu'il y a des conditions, il y a des conditions particulières que personne ne lit jamais, qui renferment ces fameuses clauses dans lesquelles vous vous engagez finalement à partager avec Meta toutes vos données, et Meta peut ensuite, Meta dans ce cas-ci, mais d'autres géants
aussi.
Du web peuvent aussi en faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est à la fois pas véritablement une fraude, c'est entre guillemets légal, mais ce que vos données deviennent ensuite peut devenir sujet de fraude. On ne sait pas très bien à qui ces données ont été revendues.
Oui, c'est ça. Et en effet, c'est une fraude diffuse par rapport aux épisodes précédents où tu parlais vraiment de fraude visant à soutirer de l'argent directement. Là, c'est un peu un mensonge diffus, c'est-à-dire qu'on te fait croire que tu peux protéger tes données, mais elles ne sont pas protégées, puisque la seule chose qui te protège, en effet, c'est la loi, et la loi européenne, comme tu le dis. C'est le seul pays, le seul continent qui essaye de tenir tête aux GAFAM aujourd'hui. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et à tel point que, pour faire suite à ce que tu disais sur la nouvelle loi européenne, il y a le DSA et le DMA, c'est que Facebook a dit, oh ben, si vous m'interdisez de vendre les données que je récupère des utilisateurs, je vais facturer l'abonnement Instagram ou Facebook, je ne me souviens plus, un des deux ou les deux.
Les deux, je crois,
aux utilisateurs européens pour compenser le manque à gagner que j'ai sur leurs données par ailleurs.
Et on a vu le vieux slogan de Facebook, Facebook c'est gratuit et ça le restera toujours, disparaître de Facebook.
Ouais.
Et on a souvent dit dans cette émission, on a répété le vieil adage que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, on voit bien qu'en effet, c'était véritablement aux yeux du monde entier qu'effectivement, si vous refusez d'être le produit, ben, vous allez devoir payer.
Oui, tout à fait.
Alors, pour terminer, Caroline, et pour terminer sur peut-être une note un petit peu moins, pour pas faire peur à nos auditeurs malgré tout, comment est-ce qu'on peut imaginer, envisager d'encourager l'inclusion numérique des personnes âgées tout en minimisant les risques de fraude en ligne?
Je t'avoue que c'est vraiment une très grande question. J'aimerais bien y contribuer avec Tech for Good Canada, mais j'avoue qu'on n'a pas d'atelier à l'attention. Pour moi, c'est une question d'éducation. Malheureusement, c'est ce que tu fais là. Ce qu'on peut faire avec tes ateliers, grand public qui a la bibliothèque de Tonto. Hein. Il y a dans les bibliothèques des ateliers qui éduquent à la prise en main du numérique avec, j'espère, un côté cybersécurité ou vie privée. Et sinon, voilà, dites-vous que vous utilisez des outils privés, gérés par des compagnies privées qui n'ont pas la protection de vos intérêts personnels et de votre vie privée à cœur, surtout si vous ne payez pas, puisque elles, dites-vous qu'elles ont besoin de payer leurs employés et que donc c'est avec vos données qu'elles vivent. Si par contre c'est un service payant, là, on peut espérer qu'elles n'utilisent pas vos données, mais il faut le vérifier. Et voilà. Sinon, par exemple, sur Tech Forward Canada, j'essaie régulièrement de faire des articles des meilleurs. Ce qu'on a fait ensemble, on a parlé de Proton, de Signal. J'essaie régulièrement de faire une liste des outils que je considère moi comme protecteurs de la vie privée et de la sécurité, parce qu'on a vu le lien entre vie privée et la sécurité des individus. J'essaie de voir si, j'imagine que tu vas parler des ressources gouvernementales, mais qui
Oui.
sont plus ou moins accessibles. Enfin voilà, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui encore 25-30 ans après la sortie de ces nouveaux médias et l'éducation n'a pas encore touché assez de monde pour que pour qu'on soit vraiment tous bien informés et bien protégés. Et parallèlement, on l'a vu, les lois n'ont pas encore rattrapé le développement du numérique pour imposer aux acteurs du numérique d'être plus précautionneux. En fait, on en est au niveau où on a inventé la voiture. Et ça a pris 60 ans avant que les ceintures de sécurité soient obligatoires.
C'est ça.
Voilà, on en est là.
J'aime bien
Donc.
l'analogie. J'avais peur que tu dises qu'on n'a pas inventé les freins, mais c'est presque ça. En tout cas, Caroline, on va donner à nos auditeurs le lien Internet pour en savoir plus sur Tech for Good Canada et retrouver les articles que tu mentionnais avec justement des listes très concrètes qui vont vous permettre peut-être de mieux vous armer et de mieux vous protéger en ligne. Techforgoodcanada.com, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Et puis, on peut aussi ajouter dans les ressources le Centre Antifraude Canada, où effectivement le gouvernement rassemble un certain nombre de données pertinentes sur le sujet. On en a déjà parlé au cours de cette émission. Antifraude Center-centreantifraude.ca. Caroline, merci beaucoup de t'être prêtée à cette émission Nos Aînés Connectés. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs?
Non, j'étais en train de, je cherchais un autre site, mais il est beaucoup plus généraliste. Hein. Il y a le site québécois qui s'appelle protégez-vous.ca, qui est à l'origine, je crois, une association de consommateurs et qui peut être une bonne ressource, comment dire, parfois plus facile à digérer que les ressources gouvernementales pour vous, mais qui est plus large que juste le numérique. Qui va vous permettre de vous protéger en général en tant que consommateur. Voilà.
Merci beaucoup, Caroline Isotier, fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, techno-éthique en français. Merci d'avoir participé à cette émission Nos aînés connectés sur Choc FM 105.1.
Merci beaucoup.
Et voilà, chers auditeurs de Choc FM 105.1, cet épisode de Nos aînés connectés arrive à sa fin. J'espère que vous avez pu découvrir plein de belles choses sur la thématique de la fraude des magazines, aussi connue sous le nom de fraude à l'abonnement caché. Je tiens à rappeler qu'il est important que vous restiez vigilant sur les liens que vous cliquez ou à tous les termes et conditions d'utilisation ou d'abonnement lorsque vous mettez votre carte de crédit et vos informations bancaires. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous et à parler de vos expériences autour de vous parce que vous ne savez pas ce que les autres ont vécu. Si ça se trouve, ils ont également été victimes d'arnaques et de fraudes et cela peut également aider à la sensibilisation de cette problématique. Chers auditeurs de Choc FM 105.1, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Si cette émission a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeurs 2.0, je suis ravie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de nos Aînés Connectés. Je vous rappelle que ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, et que nos épisodes sont diffusés tous les mardis à 18h. Mais sachez que vous pouvez également retrouver tous nos épisodes de la série Nos Aînés Connectés sur notre site chocfm.ca. Merci encore à toutes et à tous. C'était Anaïs Delhomme. Bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos Aînés Connectés sur les ondes de Choc FM 105.1.
Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.